Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. En descendant du Larzac en direction de Nantes, sur un replat de quelques hectares, à mi-chemin entre Côtes et Cévennes, se trouve la ferme de Bénéfir, où Tessa élève ovins et porcins.
Bonjour, alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Alors moi c'est Tessa Verrier, je travaille donc sur le GAEC du Bénéfir, qui est une ferme sur la commune de Sauclières.
Tu fais quoi comme agriculture?
Alors on fait de la polyculture et de l'élevage, donc on produit notre foin, nos céréales, on élève des cochons en plein air et des brebis viande. Et on a aussi un atelier de transformation sur la ferme.
Tu transformes les brebis et les cochons?
Alors, je fais un petit peu de vente d'agneaux, mais principalement du cochon et surtout de la charcuterie. Affinage, saucisses sèches, copas, jambon et pâté, principalement.
Donc, le cochon, c'est la plus grosse partie de ton travail?
Pour le moment, oui. Alors, je vais peut-être avoir un futur associé et là, on développera un petit peu plus la vente d'agneaux en direct.
Depuis combien de temps tu exerces le beau métier d'agricultrice?
Alors, je suis arrivée en 2015. Donc c'était pas du tout mon métier au départ. Et je me suis installée en 2018. Donc je suis associée j'étais associée avec mon frère et ma mère, puis mon frère est parti, donc je suis pour l'instant avec ma maman.
Et qu'est-ce que tu faisais avant d'être agricultrice?
Avant j'étais comédienne, j'ai fait beaucoup de théâtre sur Montpellier, après j'ai fait une formation à Paris, l'école Jacques Lecoq. Après, j'ai aussi travaillé dans la restauration et mon ex-compagnon, le papa de mes filles, lui faisait du vin nature vers Uzès. Et après, je suis venue ici.
D'accord. Et pourquoi t'as arrêté tout ça?
En fait, je suis revenue ici parce que ma maman était un peu souffrante. J'ai voulu donner un coup de main et les racines sont remontées, en fait, et la charcuterie. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. En fait, mes parents tuaient le cochon quand on était petit, familial, une fois par an. Et j'ai toujours aimé ça, puis je crois que j'avais mis ça dans un coin de ma tête en me disant que peut-être j'étais pas faite pour ça. Et en fait, quand je suis arrivée, ça m'a plu et j'ai dit bah, c'est ça que je veux faire.
D'accord.
Voilà.
Et vous faites tout de A à Z, vous tuez le cochon, vous le découpez, vous le transformez?
Alors, on n'a pas le droit de tuer les animaux sur la ferme. Donc moi, je travaille avec un tout petit abattoir qui est au Vigan, qui a été fermé suite à des vidéos de L214. Et qui a réouvert en fait en collectif de paysans. Donc ce sont les paysans qui tuent les bêtes. Moi, dans mon fonctionnement, je n'ai pas de temps pour l'abattoir, mais je travaille toujours avec eux. Parce que c'est un tout petit abattoir qui respecte vraiment les animaux. On n'est pas avec des gros semi-remorques qui arrivent de Bretagne, c'est des petits éleveurs. Et voilà, donc j'amène mes cochons le lundi soir, qui sont abattus le mardi, je vais les récupérer le mercredi, et je les transforme dans mon atelier par la suite.
Et quand tu dis que tu fais ton foin, etc., est-ce parce que c'est ta façon de voir les choses, ou est-ce parce que tu es en bio, et qu'en bio on exige ça?
Non, alors nous on n'est pas en bio, mais on n'utilise pas de produits chimiques du tout. Mais non, pour moi c'est cohérent en fait de faire notre foin et le donner à nos bêtes. Moi j'en achète, mieux c'est, je trouve.
Oui.
Et on arrive
financièrement aussi peut-être, non?
Financièrement aussi. Après c'est tout un savoir-faire, les terres. Il y a des moments où faut être là sur la terre et pas dans son atelier, quoi. Donc il y a des choses que je dois travailler parce que c'est pas ma formation initiale. Donc là je prends le savoir-faire de mon père là-dessus, mais qui est à la retraite, donc c'est pas évident. Ça, il y a de la formation à faire, donc mon futur associé lui travaille un peu plus là-dessus en formation à la Cazotte, qu'il est en apprentissage là pour le moment ici. Et oui, après il y a tout le côté mécanique aussi qui est pas évident. Donc moi, il y a des choses que je fais faire aussi, je fais faire des prestations. Et je travaille aussi avec une Cuma. Comme ça, en fait, je n'ai pas acheté tout le matériel dont on se sert des fois une ou deux fois dans l'année. C'est des grosses machines qui coûtent extrêmement cher. Donc voilà, et c'est encore dans mon idée aussi de travailler en collectif, partagé.
Et vous avez des salariés sur le GAEC ou pas?
Alors, je prends des salariés parfois sur des périodes précises, par exemple l'agnelage, ou parfois pour garder les brebis. Donc oui, ça m'est arrivé de prendre des salariés. D'accord. J'ai eu un salarié pendant 2 ans.
Et là, c'est, là, maintenant, tu choisis juste les périodes.
Voilà, c'est ça, c'est ouais. Pas l'année. Ouais.
D'accord. Alors, au jour d'aujourd'hui, donc, ça fait 7 ans que tu es agricultrice.
Oui, alors, installée depuis 4 ans. Ah. Et avant, j'étais aide familiale sur
d'accord.
La ferme.
Est-ce que tu en vis bien? Est-ce que tu peux sortir une grosse somme s'il y a une panne?
Non, c'est difficile au niveau de la trésorerie. D'accord. Heureusement qu'il y a les banques et la PAC.
Ouais.
Ouais. C'est compliqué. Ouais. Je bénéficie de la PAC et c'est vrai que c'est dur de vivre de ce métier dignement. Après, on a un cadre de vie exceptionnel, de la liberté, mais aussi beaucoup de contraintes. Donc, c'est passionnant. Mais c'est vrai que financièrement, mes salariés sont mieux payés que moi.
Ah oui.
Oui.
Oh ben mince.
Ouais.
Mais c'est pas comme ça, le monde du patronat, normalement.
Ben oui, mais c'est le patronat à l'envers. Donc, ouais, je considère aussi que c'est un travail qui n'est pas évident, avec des horaires qui ne sont pas toujours évidents. Quand il faut aller au charbon, ben, que ce soit samedi, dimanche, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il faut y aller. Donc, je trouve ça normal de bien les payer. Mais c'est vrai que nous, c'est un petit peu serré. Et encore, je ne paye pas de loyer parce que j'habite dans la maison de mes parents. Qui est quand même un oui. Avantage énorme,
oui,
mais sinon ça serait difficile avec le prix des loyers actuellement.
Ah. Ouais. Et est-ce que tu te permets de partir en vacances?
Oui, 15 jours par an, parce que j'ai des enfants,
oui.
Donc la plus grande demande aussi un petit peu de vacances. On est une génération aussi où nos parents, mes parents travaillaient tout le temps, on les suivait, ils partaient jamais en vacances. Et j'ai l'impression, quand je parle avec les gens de mon âge, en fait, qu'ils veulent pas forcément reproduire ce schéma-là. Mmh. Et avoir du temps pour les enfants. Et c'est pour ça aussi les associations, les GAEC, c'est avoir un week-end de temps en temps par mois pour pouvoir un petit peu souffler. Mmh. Et ça, je pense que c'est hyper important d'aller prendre l'air. Moi, en plus, qui ai fait du théâtre, qui avait une vie sociale assez riche et intense avant... J'ai besoin des fois de reprendre mon souffle et de l'énergie ailleurs, de me nourrir en fait pour revenir plus forte ici. Parce que c'est un métier quand même où on est très solitaire aussi. Même si je travaille dans des collectifs, on est souvent seul.
Ouais. Voilà, on voit tout le temps que les mêmes personnes.
Voilà, c'est ça. Ça reste. Et moi, c'est vrai que j'ai des amis instits, maçons, comédiens, restaurateurs. Donc. J'aime aussi les voir et profiter, aller manger au restaurant.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas mal entendu chez les gens qui ont repris la ferme de leurs parents. C'est que vraiment, au jour d'aujourd'hui, ils se disent « je veux pas reproduire le coup de « je fais que bosser, que bosser, que bosser ». Et mes enfants ont 20 ans, je les ai pas vus grandir.
C'est ça.
On essaie de se dégager du temps pour soi aussi.
Oui.
Ce qui a l'air assez difficile à faire, quand même.
C'est pas évident. Ouais. Parce qu'on a prévu de se reposer une journée ou peut-être partir à la mer. Et puis, je sais pas, les brebis ont sauté, elles sont dans les luzernes. Ben, on remet ça à plus tard, quoi. Ouais. Ça prend le dessus assez rapidement. On a toujours un peu la tête dans le guidon. Et c'est vrai que c'est... j'ai pas envie de reproduire ce schéma-là. C'est pas que j'en ai souffert, que mes parents travaillent beaucoup. Je trouve qu'ils nous ont élevés d'une façon admirable, qu'ils ont défendu un projet de vie aussi. Et en fait, j'ai envie de le redonner à mes enfants aussi, mais de manière différente. Peut-être avoir un peu plus de temps, partager. Je sais que ma grande, par exemple, ça l'ennuie quand les copains viennent d'aller à la bergerie. Tous les enfants, ils arrivent, ils disent, ouais, on va voir les brebis, les cochons. Elle dit... Ça ne m'intéresse pas. Je vois ça tous les jours. Quoi. Ouais. Et elle a pas... Autant la plus petite, elle veut tout le temps venir avec moi travailler. Quoi. Mais non, la grande, elle est un peu... Ouais. Elle me reproche souvent de trop travailler.
Ouais. Oh,
ouais.
Donc, en imaginant qu'un jeune veuille s'installer et qu'il te demande conseil, quel genre de conseil lui donnerais-tu? Est-ce que tu lui conseilles de faire paysan? J'imagine que oui, vu que toi, tu l'as choisi. Grosso modo, quels sont les avantages et les inconvénients d'être agriculteur?
C'est un métier magnifique. C'est quand même... on nourrit les gens. Pour moi, c'est essentiel. Et les nourrir bien, localement, je trouve ça magnifique. Après, ça demande une énergie considérable, un investissement important et un choix de vie parce qu'on est aussi dans un territoire... Les fermes sont assez éloignées, on est seul, souvent. le soir, l'hiver, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, il faut avoir dans le cœur une énergie puissante, en fait, pour pas déprimer. Parce que des fois, l'hiver, moi, j'en ai vu des gens qui sont venus, des copains, je vais faire un peu de maraîchage ici. Ou... L'hiver, ils me disaient, mais comment tu fais ? Quand il pleut pendant 2 mois, qu'il n'y a personne qui passe, qu'on n'a pas le temps d'aller au cinéma, que la nuit tombe à 6 heures, c'est difficile, c'est évident. Mais après, il y a quand même quelque chose, un moteur qui, je ne sais pas, c'est les animaux, la terre qui donne l'énergie. Hein. Moi, j'ai fait un... Je le dis, parce que je pense que c'est important d'en parler. Suite à la séparation avec mon compagnon, j'ai fait une dépression, mais aussi un burn-out, en fait. Et il y a un jour où je ne pouvais plus me lever de mon lit. J'avais plus la flamme, quoi. Je me disais, ça n'a plus de sens, quoi. Et en fait, c'est revenu. Parce qu'il y a des animaux, en fait, c'est comme des enfants. Mais c'est comme si j'avais 250 enfants. Il faut les nourrir tous les jours, quoi. Et bien, ça, en fait, ça nous fait lever le derrière, quoi. Ouais. Et on dit, il faut y aller, quoi. Ouais. On ne peut pas les laisser comme ça. Et après, on transforme le produit, on va le vendre. Et là, ça revient, quoi, l'énergie. Mais il faut faire attention de ne pas trop s'enfermer et trouver justement des espaces pour soi, pour souffler. Par exemple, toute la partie comptabilité, maintenant, aujourd'hui, pour un paysan, c'est énorme, tout ce qu'on nous demande. Il faut être bon partout, quoi. Il faut bien travailler ses terres et bien transformer son produit et bien faire ses factures et bien tenir ses comptes. Enfin, ça demande des compétences gigantesques, je trouve, quoi. Et pour moi, l'agriculture, avant, c'était pas ça. Et ça, je l'ai pris un peu de front quand je suis arrivée. J'imaginais pas, en fait, tout ce travail-là. Et ça, c'est important, je pense, pour de le dire à quelqu'un qui veut s'installer. Maintenant, moi, j'ai un atelier. Tout ce qui est ce qu'on appelle le PMS, le plan de maîtrise sanitaire. C'est-à-dire, je dois, dans un cahier, dire comment je travaille, par où je rentre, par où je sors, qu'est-ce que je mets comme produit, qu'est-ce que j'utilise, les DLC, c'est énorme en fait, les numéros de l'eau, quel poivre j'utilise, noter ça dans un cahier, tout ça, ça en fait au début, je vais faire du pâté, super, mais il faut faire des analyses, il faut aller les transformer, les amener à la conserverie, enfin, c'est tout un travail qu'on n'imagine pas en fait, il y a des fois une image un peu bucolique, je trouve, du paysan. C'est plus compliqué que ça, on est technicien aussi, de beaucoup de choses. Et en même temps, passionné.
Le rapport avec le client, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi ? Est-ce que ça te permet d'avoir une vision en recul un peu sur ton travail ?
Pour moi, c'est primordial en fait. C'est pour ça aussi que je fais de la vente directe, même si ça prend du temps. Parce que en fait, ça nous sort justement des fois de cet isolement. Et de voir quelqu'un qui dit... c'est souvent un des retours que j'ai, par exemple, sur la saucisse sèche que je fais. Ah, ça me rappelle quand j'étais petit. Et je pense que c'est aussi ça, en fait, qui a fait que je suis venue ici. C'est chercher ça, en fait, cette âme d'enfant, en fait, de retrouver des goûts de l'enfance, des joies de l'enfance. Et voir les gens, en fait, ça permet ça aussi. De nous sortir de ça, toujours dans le travail. Ouais, puis c'est rencontrer du monde. Moi qui viens aussi du théâtre et tout ça, c'est... J'aime parler avec les gens, raconter ce que je fais. Et... Parce qu'on raconte aussi une histoire, on ne vend pas juste de la saucisse ou du pâté. Moi, je raconte que mon cochon, il est élevé ici, que je moue mes céréales, que c'est ça qui est important. Voilà.
Et où est-ce que tu vends ?
Alors, je vends sur la boutique paysanne, boutique et bistrot paysan de Nantes, qui est une boutique qui fait aussi bar, mais avec les produits, des produits locaux. Donc c'est cette boutique à Nantes et je suis aussi sur un collectif à Millau qui s'appelle le GIE des Grands Causses, qui après a donné le marché paysan, qui est une autre entité mais qui est liée au GIE et on distribue sur les marchés des Arceaux à Montpellier, le marché de Montredon l'été.
Et donc le métier d'agriculteur, tu le connais puisque tes parents l'exerçaient déjà, donc tu l'as vu évoluer. Est-ce que tu as une idée de l'évolution qui va prendre dans les années futures ?
Je pense qu'il y a une énergie et des gens qui veulent faire ce métier, donc en se donnant un peu du temps aussi, ce qu'on disait au début, qui veulent revenir un peu sur la terre, et je pense qu'il y aura plus de petites exploitations que des grandes. Ce qui me fait peur, c'est le foncier. C'est parce que ça coûte cher de reprendre une ferme quand on n'est pas en transmission familiale. Nous, par exemple, ici, on risque de perdre les terres. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire mon métier encore longtemps. Donc on va...
Et voilà. Pourquoi tu perdrais tes terres?
Parce que c'est un GFA et que, avec des parts, et le prix a énormément augmenté en 10 ans.
D'accord.
Ça a doublé. Et je suis dans l'incapacité aujourd'hui de racheter ces terres. Donc je vais trouver des moyens de lutte, de collectif encore. Je pense qu'on va faire appel à des gens pour nous aider à racheter ces parts. Sinon, on perd notre outil de travail.
Ouais.
Et ça, c'est un problème aujourd'hui, je pense, dans la France en général, sur le rachat, en fait. On le voit aussi dans le domaine du vin. C'est des grandes entreprises chinoises ou russes qui font des montages financiers. Et en fait, après, les gens du cru ne peuvent pas racheter parce que c'est trop cher. Trop, trop cher. Et même ici, on pourrait penser que sur les contreforts du Larzac, c'est pas si cher, mais c'est pas vrai. Et nous, en plus, on pâture avec nos brebis, on les garde, on entretient aussi, on fait de l'agropastoralisme, on entretient aussi le paysage. Parce que si on n'est pas là, ça va s'embroussailler. Ou sinon, il y aura un gros paysan qui a déjà plein de terres et qui s'agrandit. Et c'est ma crainte pour l'avenir principal, ça, pour l'agriculture en France. Elles ont une valeur qui est marchande, mais qui n'est pas une valeur de terrain, parce qu'il faut les travailler, ces terres. Il faut les garder, il faut les préserver, il faut les entretenir. Même la PAC, ils vont changer là, d'ailleurs la PAC l'année prochaine. Ils travaillent un peu plus sur le verdissement, c'est-à-dire qu'on arrête de couper les haies, les bosquets. Avant, on taillait tout et on fait des grands champs parce que c'est plus facile à travailler. Aujourd'hui, il faut se poser la question, si on s'installe sur une ferme, avoir la PAC, c'est une chose. Mais il y a quand même des comptes à rendre, pour moi. Ce n'est pas juste de l'argent, quoi. C'est aussi respecter la terre, l'entretenir. Alors, on n'est pas ici dans une terre de grands céréaliers, de culture intensive. Mais pour moi, la PAC, ce n'est pas juste un revenu, quoi.
Il y a du boulot.
Il y a du boulot.
C'est pas fini.
Ça peut être la conclusion. Ouais. Il y a du boulot.
J'ai posé toutes mes questions. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé, qui te semble important?
Non, par contre, je voulais dire que c'est super de faire des interviews comme ça, des paysans locaux. Je trouve que c'est une belle initiative de nous donner la parole. Parce que c'est vrai qu'on a souvent la tête dans le guidon et on n'exprime pas ou peut-être pas facilement en fait, ce qu'on vit. Et je trouve ça important de mettre le projecteur là-dessus un petit peu.
Elle porte toujours un sac en plastique. Avec de la bouffe macrobiotique. Elle s'appelle Magritte, c'est une femme, pas une pipe. T'as pas de chance, elle pense quand elle danse. Il y a plus de femmes que de Chinois. Elle pense à lui et à toi, toi, toi aussi. Elle a trop de tout et assez de choix. T'as pas de chance. Elle pense quand elle danse. On peut être chaud comme un lapin. Et quand on n'a rien, touche le mauvais et goûte le bien. T'as pas de chance, elle pense quand elle danse. Ne joue pas trop le sérieux. Avant d'être con, avant d'être vieux. Avant de perdre la tête et de tomber amoureux. T'as pas de chance, elle pense quand elle danse. Elle pense quand elle danse. Elle pense quand elle danse.
Donc là, on voit les petites brebis, les petits moutons qui paissent.
C'est ça.
C'est quelle race ?
C'est des blanches du Massif Central. Ah. Donc on a 180 brebis. Mmh. Et ben, on les fait sortir le plus possible. Donc en fonction justement par rapport au changement climatique. Des fois, on a des périodes de pluie qui sont assez longues. Mais après, ouais, nous, on a des parcours et on les garde beaucoup à l'extérieur.
Oui, vous avez les terres, elles sont collées à la ferme plus ou moins ?
Oui, mais ça, quand même, ça comprend aussi les bois qui sont ici. Uh-huh. Donc il y a pas mal de bois, mais sinon, ouais, elles sont quand même autour de la ferme, principalement. Ouais.
Et tu les fais pas paître sous les bois, des fois ?
Si, en été, ouais. Parce qu'elles chôment l'été, là, quand il fait trop chaud, elles arrêtent de manger. Donc c'est vrai qu'on a des territoires où il y a de l'ombre et tout ça, c'est quand même très très bien pour les brebis.
Et des brebis, t'en as combien ?
180.
180 ?
Ouais.
Et tu gardes toujours ce...
Oui, je reste... parce que bah, j'ai une bergerie qui ne permet pas d'en faire beaucoup plus. Mmh. Et on a aussi une cinquantaine de cochons en plein air. Donc ils sont là, qui ont des petites cabanes en forme de yourte.
Ah oui, j'ai déjà vu comme ça.
Voilà.
Ah, trop rigolo. En fait, ouais. Tu récupères des silos.
Alors là, c'est une entreprise qui fait ça, ça s'appelle Plein Air Concept, et qui ont créé ce système de cabanes. Uh-huh. Donc c'est eux qui les créent, mais on pourrait en faire hein, nous-mêmes. Mm. Mais là, il y a un plancher au-dessus de donc cette forme-là de silo coupé.
Ouais.
Il y a un plancher au-dessus, et après, il y a une bâche. Mm. Et en fait, entre le plancher et la bâche, on met de la paille pour isoler l'hiver, et d'accord, même l'été, en fait, pour pas qu'il fasse trop chaud. Ouais. Et donc il y a plusieurs types de cabanes, et par exemple on a aussi une cabane de maternité qui permet en fait à la truie de ne pas écraser ses petits, parce que nous on ne fait pas de contention comme dans les élevages industriels.
C'est quoi la contention ?
C'est-à-dire que la truie elle est enfermée, en fait elle peut pas bouger à partir du moment où elle met bas, pour ne pas écraser les petits, pour ne pas avoir de pertes.
D'accord.
Parce qu'on est dans un modèle économique où il faut tirer, ouais, ne pas avoir de pertes. Moi je devrais faire pareil, mais je n'y arrive pas en plein air, parce que je considère que je les laisse faire quoi, leur naissance toute seule. Donc j'ai investi dans cette petite cabane de maternité là qu'on voit au fond.
D'accord.
Et à l'intérieur, il y a un cerclage qui permet à la truie en fait, de ne pas se retourner et d'écraser les petits. Parce qu'une truie peut faire jusqu'à 250-300 kilos. Mmh. Et quand ça naît, les petits, c'est vraiment tout petit. Donc il y a souvent de...
Oui, puis elles peuvent faire beaucoup de bébés, non ?
Oui, c'est donc ça, les truies, elles peuvent aller jusqu'à 16 petits.
À la fois ?
Dans l'industriel, en fait, les truies sont choisies en fonction du nombre de tétines. C'est-à-dire qu'une truie qui a 12 tétines, elle ne fera pas 14 petits. Elle restera à 12. Mmh. Elle peut en faire 6, 8, 12. Mmh. Mais on sélectionne les truies souvent en fonction de ça.
D'accord.
Voilà.
Donc une truie peut avoir, 16... dans une même race, un nombre de tétines différent.
Oui, tout à fait.
À l'ombo.
Ouais. Et après, selon la race du cochon, il y en a qui ont des qualités plus ou moins maternelles, qui ont plus ou moins de lait, qui sont plus ou moins gentils aussi. Mmh. Voilà. Donc, moi ici, en fait, j'ai des Duroc. Donc, c'est des cochons marrons. On voit qu'ils sont là-bas,
oui,
là-bas,
là
il y en a un là.
Ouais.
Après il y a du piétrin et du cochon noir aussi.
D'accord, il y en a des tout noirs, il y en a des tachetés marron
voilà.
Noir.
C'est arc-en-ciel, l'élevage de cochons. Ouais. Le Duroc par exemple, c'est une race qui vient des États-Unis et qui a été arrêtée parce qu'on considérait que le cochon était un peu agressif. Je pense qu'il était agressif parce qu'il était dans des bâtiments fermés. En plein air, ils sont vraiment extrêmement gentils. Moi, ils me suivent avec le seau sans problème. J'ai pas peur avec les enfants de mes cochons.
Ouais.
Ils sont vraiment extrêmement gentils.
Bah là, à peine on est arrivé, cette maman-là, elle est venue voir.
Ouais, elle est curieuse,
elle dit
quoi.
Bonjour, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est pour ça que je disais que c'est un animal qui est vraiment très sympa. Et c'est vrai que nous, en plein air, on n'a pas de problème d'agressivité avec les cochons. Ça peut arriver. Hein. Dans ces cas-là, on le réforme, quoi. On le réforme, c'est une façon jolie de dire qu'il devient de la saucisse. En général. Alors nous, les mâles sont castrés.
Hein,
ouais, parce que pour pas faire de consanguinité. Donc le vera est à part. Il est tout seul ou avec une femelle en chaleur. Mais sinon, on castre les animaux jeunes avec un vétérinaire et parce qu'on n'a plus le droit de le faire nous-mêmes avant pour le bien-être animal. C'est vrai que c'était quand même assez de souffrance, même si on le fait tout petit. Mais bon, on a arrêté ça. Donc maintenant, on le fait faire par des vétérinaires sous anesthésie. Et voilà, après ils sont mélangés. Ça, c'est une fratrie par exemple. D'accord. Sauf le marron, ouais, qui elle avait perdu ses frères et sœurs. Et du coup, elle a été adoptée par l'autre fratrie. Donc d'accord, là, il y a 8 cochons ensemble, des mâles et des femelles.
Oui, et puis c'est grégaire, c'est sociable les cochons.
Extrêmement. On dit que c'est l'animal qui se rapproche le plus de l'humain. En science, en fait, ils font beaucoup d'études avec, par exemple, sur le cardiaque avec des cochons. C'est vrai qu'il nous ressemble beaucoup, il est assez intelligent, il a une mémoire olfactive très très importante. Nous, on récupère du petit lait d'un fromager caprin qui est à côté, qui est en bio, et on récupère le petit lait de ces fromages. Et les cochons, en fait, quand ils me voient arriver avec de loin, ils sentent, ils viennent à la clôture et ils réclament, quoi. Et quand il n'y en a pas, ils font la tête, ils boudent un peu, ils ne veulent plus manger mon orge, ils ne sont pas contents.
Et au bout de combien de temps tu les réformes, comme tu dis?
Alors, entre 12 et 18 mois, selon...
Ils font quel poids, à peu près, à ce moment-là?
120 kilos carcasse, donc ça fait des 150-160.
D'accord.
Voilà. Il faut savoir que dans l'industriel, on les mange à 6 mois. Nous, c'est des croissances très, très lentes. Et je pense que ça se retrouve sur la qualité aussi de notre viande après à la transformation. Et quand moi je vends une côte filet de porc qui fait 150 grammes, vous allez manger 150 grammes de viande. Ouais. Il n'y aura pas la moitié de l'eau dans la poêle. Ouais. Voilà. Donc là, on entend les petits porcelets qui attendent le petit lait, justement. Et là, j'ai vu qu'il y avait le fromager qui était arrivé.
Et vers quelle heure tu leur donnes à manger?
Là, ils ont mangé déjà ce matin, mais comme le petit lait n'était pas encore arrivé, là, ils réclament un petit peu. Vous avez les patous aussi.
Ouais, le patou, donc ça c'est pour les brebis.
C'est pour les brebis, donc c'est pas un chien de garde, c'est un chien de protection pour la problématique du loup.
Oui, vous y êtes confrontés?
Alors pas directement, mais il y a un mois et demi de cela, on l'a vu pas très loin d'ici, quoi, à un kilomètre. Et moi j'ai beaucoup d'amis agriculteurs qui ont été fortement impactés par le loup.
Ouais.
Ça c'est aussi un grand sujet qui provoque souvent un peu des tensions quand on en parle, qui est assez clivant. Parce que garder les brebis, les protéger tout le temps, c'est plus possible. Et justement, avec les changements climatiques et tout ça, les brebis, moi par exemple, où elles mangent le mieux l'été, c'est la nuit. Qui veut faire ce travail de garder des brebis 12 heures par jour, la nuit, avec des chiens? On devient des soldats, quoi. C'est compliqué. Ouais. Donc, moi, j'ai pas été directement touchée, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me touche parce que j'ai vu des agriculteurs épuisés par ça. Et puis, on n'élève pas des bêtes pour qu'elles se fassent bouffer par le loup, quoi.
Ouais. Ah, quel beau métier de faire de la charcuterie, quand même.
Ouais, moi, je suis assez fière d'être paysanne charcutière. Non, mais c'est important.
Et tu es gourmande, toi, de charcuterie?
Ah, j'adore
de faire
ça.
Gaffe.
Ah non, je fais pas gaffe du tout.
Et
mes enfants, quand ils rentrent de nounou de l'école, la première chose qu'ils veulent, c'est aller à l'atelier et manger de la saucisse. Ah, quoi. C'est...
Ah, tu as des brebis ici aussi.
Voilà, parce que là, on est en fin d'agnelage. Donc, les brebis qui sont dehors, elles sont taries. Elles sont plus avec leurs agneaux.
D'accord.
Voilà, et là, elles ont encore leurs agneaux parce qu'elles allaitent encore.
Donc, tu as plusieurs agnelages?
Non, mais je ne fais pas d'insémination. Donc, mon agnelage peut courir sur un mois et demi, deux mois. Voilà. Non, je ne fais qu'un agnelage l'hiver. Mais du coup, il y a des différences.
Tu as tes propres béliers?
Oui, d'accord, tout à fait. Ouais, on a
donc,
trois béliers.
Donc, tu fonctionnes en mieux, en fait?
Pratiquement, tout le monde me dit ça, mais oui, oui.
Sauf que t'as pas demandé le AB.
C'est ça, j'ai pas le AB.
Ça se paye, non?
Ça se paye, et c'est que des fois j'ai peur si un jour, je sais pas, j'ai une terre qui est très pauvre, si je dois mettre un petit peu d'azote, ou il faut repenser. Et puis, si je veux passer en bio, je veux passer sur tout. Et parfois, il m'arrive, à la jonction, avant les moissons, de devoir acheter. Alors, j'achète local à des voisins des céréales, mais qui ne sont pas forcément en bio, qui ne traitent pas qui sont pas dans la chimie, mais du coup, bon, après, voilà, mais je pourrais passer le pas sans problème. Mmh. On en a parlé encore mardi à la chambre d'agriculture ensemble, où elle me disait peut-être ça serait intéressant que tu passes en bio. Ouais. Après, ouais, moi, j'aimerais que tout le monde soit en bio sans qu'on le dise, que ça soit ça la norme, et que ceux qui font des trucs chimiques, eux, le disent, plutôt que nous, aller devoir chercher des appellations. Un jour, on m'a dit, ah, mais pourquoi tu marques pas dans ta saucisse qu'il n'y a pas de sel nitrité ? Et j'ai dit, pourquoi j'irais payer des étiquettes pour dire que je travaille bien ? Pourquoi ce n'est pas les industriels qui disent que c'est dégueulasse ? Faites des étiquettes que ce n'est pas bon ce que vous faites. Mais ce n'est pas à nous qui travaillons bien, en fait, d'avoir des frais, des démarches, en fait, pour dire on travaille bien.
Ok, super. Bon, mais je te remercie, Tessa.
Bah, avec plaisir, merci à toi.
Et puis, bonne continuation.
Ça marche, ben merci. Et puis, bonne continuation pour les interviews suivantes.
Merci bien.
À bientôt.
Allez, ciao.
Un grand merci à Tessa et tous nos vœux de réussite pour la suite. Retrouvez Paroles Rurales et bien d'autres merveilles sur internet à radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.